au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour parce que ben il fait quatre fois plus beau aujourd'hui que la semaine dernière. Tiens, on a une bonne raison. Je pose même plus la question parce que ben je sais pas, peut-être Mathieu aurait une bonne réponse aujourd'hui. Pourquoi quatre fois bonjour?
Parce que j'ai quatre mauvaises réponses à donner.
Bon, parfait. On va aller avec la première aujourd'hui.
Absolument.
Bon, c'est le 30 mars aujourd'hui. Ben oui, 30 mars. C'est la semaine de Pâques. Ben oui. Alors, c'est lundi saint aujourd'hui, c'est la semaine sainte. Si je me rappelle mon petit catéchisme, ça fait longtemps que j'ai étudié ça. Bon. Alors, tout de suite pour vous dire que... Et c'est une journée printanière aujourd'hui, ou presque. Il fait beau dans le sud du Québec, dans l'est du Québec, en Ontario, dans les provinces atlantiques. Mais, comme ils disent, l'avril s'en vient, puis avril ne te découvre pas d'un fil. Parce qu'il va recommencer à avoir des précipitations demain. Il y a trois systèmes d'ici Pâques. Trois systèmes qui s'en viennent.
Mais là, des précipitations de neige?
De neige, de pluie, d'accord. De pluie verglaçante. On n'a pas fini. Ah, mon Dieu. Puis en plus de ça, moi, c'est les moisissures de la neige, parce que ça, quand la neige fond, il y a plein de petits résidus de décomposition. Ça, c'est plein de petits champignons, ce qu'on appelle des spores. C'est dans l'air. Oh, on aurait dû me voir vendredi. J'étais pas très beau. Ça s'entend encore un peu dans ma voix, mais ça se calme. Et puis, ben, une plus belle voix que la mienne, c'est celle de Daniel Rioux. Salut, Daniel.
Ah, que de compliments le matin. Vous commencez vite, vous, là.
Ben je suis charmeur, pourquoi pas?
Ah, ben, pourquoi pas? On va en profiter, écoutez. Puis, ça fait sourire, et c'est justement le sujet de ma chronique aujourd'hui. C'est comment le sourire est arrivé dans la photographie. Et je pense que ça va être intéressant. Donc, puis à part ça, Pâques arrive, donc on va faire des photos de famille. Ça va être le temps de sortir son sourire.
Oui, mais on ne sortira pas fort pour chercher les cocos de Pâques, je suis sûr de ça. Il ne va pas très beau ce week-end. C'est ce qu'on prévoit présentement. Fait que la course aux cocos, ça va se faire dans le salon, j'ai l'impression. Mais c'est bon, on va sourire pareil.
Oui.
Et puis moi, de mon côté, je vous propose des entrevues. On va parler du Festival des clowns de Montréal. Ah, mon Dieu, je pense que je suis invité spécial pour ça, avec donc la directrice générale artistique. On va parler d'un livre, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la condition des femmes qui vieillissent et, qui vivent leur ménopause. C'est le collectif qui s'appelle Au bout de notre sang. On va recevoir Martine Delvaux et Esther Laforce, qui sont les co-directrices de ce collectif. On va parler aussi de la pièce de théâtre, en fait, qui est aussi du théâtre et des marionnettes. Alors, croyez-vous aux fées. Et on va parler aussi d'un livre qui est écrit à quatre mains, hein? Parce que c'est deux auteurs, Denis Morin et Michel Lemieux, qu'on connaît, le grand artiste Michel Lemieux, qui vont nous parler de La Somme de l'eau. Alors, Daniel, aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un de super important dans la culture, dans la grande famille québécoise.
Ah ben oui, c'est Céline Dion.
Bonne fête, Céline Dion, qui a 58 ans aujourd'hui.
Je viens grandir, tu vis quelque part entre douleur et douceur.
belle voix de Céline Dion, puis ça change pas. Même ces plus vieilles chansons que je trouve toujours aussi belles et aussi agréables à entendre. Ben oui, je suis un fan, mais je ne sais pas si je vais me payer un billet d'avion pour aller voir Céline performer à Paris. Les rumeurs vont grand train, paraît-il qu'il y avait des répétitions à la Tour Eiffel la nuit dernière. Et même, on faisait dans le Champ de Mars aussi, on faisait jouer de la musique et tout ça pour peut-être annoncer donc ce retour sur scène de la grande Céline à Paris. Alors, les chanceux de Parisiens, j'en ai plusieurs qui nous écoutent présentement. Puis, je vais vous le dire, je vous aime plus parce que vous allez avoir notre Céline. Bon, c'est vrai qu'on leur a aussi envoyé Mathieu Bock-Côté, ça fait que ça compense. Maintenant, revue de presse. Eh bien, oui, le règne de Michael Rousseau à la tête d'Air Canada tire à sa fin. Le plus important transporteur aérien au pays a annoncé que son président quittera ses fonctions d'ici la fin septembre, officiellement, pour prendre sa retraite. Ce départ survient toutefois en pleine tempête linguistique, une semaine seulement, après que le dirigeant ait diffusé un message essentiellement en anglais. Il a dit « bonjour et merci » pour offrir ses condoléances à la suite du décès de deux pilotes. C'est le deuxième incident du genre en 5 ans pour M. Rousseau, dont la démission était réclamée par l'Assemblée nationale du Québec. Signe du malaise, le conseil d'administration a précisé dans son communiqué de presse que la capacité de communiquer en français sera désormais un critère d'évaluation majeur pour dénicher un successeur à M. Rousseau. Bien qu'Air Canada souligne le leadership soutenu de son patron depuis 2007, cette transition marque la fin d'une époque teintée de vives tensions entre le transporteur montréalais et ses obligations liées à la loi sur les langues officielles. Un mois après le début des hostilités au Moyen-Orient, un fragile espoir diplomatique semble poindre malgré la poursuite acharnée des combats. Le président états-unien Donald Trump a affirmé hier soir entrevoir un accord imminent avec les nouveaux dirigeants iraniens, qualifiant ces derniers de bien plus raisonnables que leurs prédécesseurs. Selon le locataire de la Maison-Blanche, les liquidations successives du haut commandement de la République islamique, dont l'ayatollah Khamenei, auraient provoqué un changement de régime de facto. Et cette ouverture diplomatique survient alors que le Pakistan se dit prêt à accueillir des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU. Mais pourtant, sur le terrain, l'embrasement persiste avec des frappes de représailles iraniennes touchant des infrastructures énergétiques du Koweït et des interceptions de missiles au-dessus de l'Arabie saoudite. Parallèlement, le front libanais s'alourdit avec le décès d'un casque bleu et l'ordre donné par Benjamin Netanyahou d'élargir la zone de sécurité au sud du pays. Alors, face à l'explosion des prix du pétrole et aux menaces pesant sur les détroits stratégiques d'Hormuz et de Bab el-Mandeb, la France réunit aujourd'hui les puissances du G7 pour tenter de limiter les répercussions économiques mondiales de ce conflit qui ne montre aucun signe d'apaisement pour le moment. Dans la presse ce matin, le nouveau chef du Parti démocratique amorce un virage radical à gauche avec l'élection fracassante du cinéaste Avi Lewis à sa direction. Victorieux dès le premier tour avec 56 % des voix lors du congrès de Winnipeg, le conjoint de l'autrice très connue à succès Naomi Klein succède à Jack Mitzing avec un programme audacieux incluant la création de magasins d'alimentation gérés par l'État. S'adressant directement aux Québécois en français, le nouveau chef a prôné la solidarité et la fin des pipelines polluants tout en ciblant la concentration de la richesse comme cause de la crise du coût de la vie. Toutefois, cette élection cristallise des tensions majeures au sein de la famille néo-démocrate. Si le premier ministre manitobain Wapkinou a salué cette victoire, les sections de l'Alberta et de la Saskatchewan dénoncent déjà des positions énergétiques jugées idéologiques et irréalistes menaçant de fracturer l'unité du parti à l'échelle nationale. Le dernier rapport de la commissaire nationale aux plaintes de Santé Québec dans Le Devoir ce matin révèle une situation alarmante pour les personnes luttant contre la dépendance aux opioïdes. Hier, le 8 CLSC, donc réparti de Montréal à l'Abitibi-Témiscamingue, ont systématiquement refusé d'administrer le Sublocade. C'est un traitement par injection mensuelle pourtant essentiel à la stabilité des patients. Pour justifier ces refus, les établissements invoquent un manque de personnel formé ou l'absence de procédures d'entreposage, forçant des patients vulnérables à retourner vers une médication quotidienne contraignante ou à payer de leur poche en pharmacie. Les conséquences directes et brutales, les conséquences sont directes et brutales, puisque des interruptions de traitement ont mené à des rechutes et à des retours à la consommation. Face à ce que la commissaire Marie Gosselin qualifie de dysfonctionnement structurel, Santé Québec a dû rappeler à l'ordre les directions régionales dès l'automne dernier. Si la situation semble se stabiliser depuis quelques mois, cet enjeu d'équité, d'accès aux soins, souligne une fragilité du réseau de santé face aux thérapies de substitution dans un contexte où chaque délai de traitement augmente dramatiquement les risques de surdose. Enfin, dans la presse ce matin, un vent de contestation historique souffle sur les États-Unis alors que le mouvement No Kings revendique une mobilisation record de 8 millions de personnes samedi. De New York à Minneapolis, des milliers de cortèges ont dénoncé la politique migratoire de Donald Trump et l'engagement militaire états-unien au Moyen-Orient. Des icônes comme Robert De Niro et Bruce Springsteen et aussi Jane Fonda se sont jointes aux manifestants pour fustiger ce que ces personnes-là qualifient de menace existentielle contre la Constitution, tandis que le sénateur Bernie Sanders dénonçait un président agissant sans l'aval du Congrès. À l'approche des élections de mi-mandat, cette démonstration de force marque un tournant dans l'opposition au gouvernement républicain. Et pendant ce temps, le président Trump a passé l'après-midi d'hier sur un terrain de golf en Floride.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you
The Shadow of Your Smile, Astrid Gilberto. Alors, c'est rare qu'on va faire jouer de la chanson en anglais, mais bon, on fait une exception aujourd'hui parce qu'on va parler de Smile. You're on camera, baby.
Oui, de Smile. Puis d'ailleurs, dans l'article dont je vais vous entretenir ce matin, justement, en écoutant cette chanson, c'est qu'aussitôt, je ne sais pas si vous avez eu un petit sourire, vous souvenir d'une histoire d'amour ou d'une rencontre agréable. Alors, cette chanson-là, dans l'article, on dit que ça peut susciter ce genre de visage avec un beau sourire. Donc, c'est le sujet de l'article, justement, parce qu'il y a eu au musée Ludwig à Cologne, jusqu'au 22 mars dernier, une exposition qui s'intitulait Smile. Smile, comment le sourire est arrivé dans la photographie. Et ce sourire et la photographie, elle commence par l'apparition de ce média révolutionnaire, est arrivé à la fin des années 1830 et se termine à l'ère du smiley. Vous savez, la pastille, le petit bonhomme jaune, oui, avec le sourire, hein, oui, qui est le simulacre numérique du sourire. À l'origine, la photographie, là, on parle des années 1830, était surtout réservée à l'élite. Ce sont d'abord les bourgeois, les aristocrates, qui prennent place devant l'imposant appareil des premiers ateliers de photographie. Et regardez avec méfiance par nombre de leurs contemporains, les pionniers de la photographie s'attachent à produire les images les plus dignes et les plus fidèles possibles de leur modèle. Alors souvent, c'est des gens avec des airs sérieux et dignes parce qu'on parle d'aristocratie et de bourgeoisie. Il y a eu la révolution du Leica, c'est cet appareil photo qui a été produit en Allemagne. Les temps de pause, d'ailleurs, n'en finissent pas parfois. Hein. Faut attendre plusieurs minutes, on le voit, avant l'arrivée du Leica, on prenait des photos puis ça prenait du temps et on devait rester devant l'objectif puis les gens se figeaient et la règle d'or était de pas, surtout pas bouger pour pouvoir prendre la photo. Même d'ailleurs dans les photos, dans les portraits du célèbre photographe français Nadar, il faut attendre longtemps avant de voir l'esquisse d'un sourire. Ce qui, lui, ne l'avait pas empêché de réaliser des portraits très expressifs de personnalités comme on pense à Sarah Bernhardt, à Émile Zola, l'écrivain, ou encore au tsar Alexandre III. Si on remonte un peu plus loin dans l'histoire de la culture, on découvre que le sourire, au même titre que le rire, a longtemps eu une mauvaise presse. Mmh. Oui. Parce que dans la bonne société du début de l'époque moderne, avec tous ses codes et ses symboles, le sourire devient par la suite une forme de politesse par opposition au bruyant éclat de rire des classes inférieures. Vous savez que les gens qui s'esclaffaient, ça passait pas très bien. Et selon les circonstances, le sourire peut servir à exprimer toute une série de sentiments. On pense à de l'affection, à l'approbation en passant par l'amusement, la moquerie ou encore la condescendance. Dans la photographie, en revanche, le sourire n'apparaît qu'au 20e siècle grâce à deux évolutions. La première est l'arrivée dans les années 20 de petits modèles d'appareils bon marché, le fameux légendaire Leica, qui était produit, je vous le rappelle, en Allemagne, et il sera produit en série à partir de 1925. Et en plus, de plus en plus à ce moment-là, comme il devient populaire, il y a des amateurs qui vont expérimenter ce nouveau loisirs et vont faire sortir la photographie à l'extérieur dans la rue. Ces photos personnelles montrent des gens en mouvement. Donc, le second facteur, il y a un autre média qui apparaît à peu près à la même époque, hein, puis c'est aussi un média de masse et en plein essor. C'est lequel? C'est le cinéma.
Ah.
Du jour au lendemain, le sourire resplendissant des vedettes de cinéma envahit les affiches et les illustrations. Et j'ajouterais que peut-être le fait que le cinéma à cette époque-là était muet, donc le sourire est bienvenu. Hein. Le facial joue beaucoup dans l'expression, surtout que le cinéma était muet à cette époque-là. Du jour au lendemain, donc, le sourire resplendissant des vedettes de cinéma envahit justement les affiches et les illustrations. Donc, il y a un univers qui se développe autour du sourire et de la photographie et du cinéma. Il y a les affiches, les illustrations, la publicité. La publicité, elle découvre aussi l'efficacité comme argument de vente.
Ouais.
Et d'ailleurs, elles s'aperçoivent que l'effet est vraiment saisissant. Il y a une poétesse, Masha Kaleko, qui est une fine observatrice qu'on mentionne dans l'article, qui a dû s'exiler à New York dès 1938 parce qu'elle était juive. Le sourire est toujours une arme de survie, une preuve de résilience. D'ailleurs, elle dit « Les gens intelligents ont le sourire un peu ironique », c'est ce qu'elle écrivait dans un de ses poèmes daté de 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le sourire, lui, va devenir une norme sociale et s'affiche partout dans les albums photos de famille, hein, ou de l'université, ou encore les affiches électorales. Hein, d'ailleurs, quand on recherche le sourire des candidats, donc c'est important. Aux États-Unis en particulier, plus personne n'échappe à l'injonction du « cheese ». Ou encore bien, on dit « spaghetti » en Allemagne.
Oui, on dit parfois autre chose, là. Mais je suis un petit peu surpris parce que je regarde le locataire de la Maison-Blanche présentement. Lui, il n'y a vraiment pas le sourire facile, hein, parce que je t'assure que les photos qu'il nous présente, Ouf, il n'a pas l'air content.
Non,
rarement, en tout cas.
Ben, des fois, le sourire qu'il fait, ça a l'air d'un sourire moqueur aussi, hein, de condescendance,
ouais.
Un sourire méchant, parce qu'il y a toutes sortes de sourires, hein, il y a des sourires sincères, puis il y a ceux comme des gens comme lui, narcissiques, toujours avec un petit, hein, un peu moqueur et pas gentil. Mmh. Alors, on a le cheese, puis en Allemagne, c'est le spaghetti, et le whistiti en France, c'est ce qu'on mentionne dans l'article. Whistiti.
Okay, parce que nous, on dit sexe.
Ah, oui, il y a ça aussi.
Ouais.
Ben, puis il y a, ben, écoute, on peut en sortir une puis une autre, hein, quand?
Mm-hmm.
Puis le phénomène ne se cantonne plus au monde du divertissement, comme je le mentionnais, les affiches, l'illustration, le cinéma, la publicité, et la photographie concerne tout le secteur des services avec le sourire. Dans les sociétés capitalistes, une belle dentition, hein, avez-vous remarqué, on met l'accent beaucoup dans la publicité, est synonyme de bonne santé. Il y a l'industrie dentaire aussi qui travaille très, très fort et sans l'âge depuis toujours pour que notre émail étincelle de mille feux. On a aussi recours à l'orthodontie, au nettoyage et blanchissement. Ça contribue à rendre notre sourire toujours plus éclatant. Il n'y a rien de tel. Ces procédés high-tech, que l'on dit, permettent d'obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui le sourire Hollywood.
Mm-hmm.
On disait aussi le sourire Pepsodent. On disait ça. Et puis, dans l'article, on mentionne, si vous pensez à Julia Roberts, hein, ou à Mick Jagger sont capables, selon l'auteur de l'article, capables d'éclairer la nuit de leur sourire laser à 3h30 du matin. Eh bien, vous avez bien raison, avec un tel sourire, on peut illuminer une pièce. Depuis les années 90, il y a une nouvelle tendance qui apparaît dans la culture populaire où certaines personnalités renoncent consciemment à sourire. Et je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un en particulier, elle est en Angleterre, cette femme. Elle a toujours l'air bête, ses photos. Puis elle expose ses vêtements, puis est au bras de son mari, qui est un célèbre joueur de soccer, qui d'ailleurs a été anobli il n'y a pas longtemps. Je pense à Victoria Beckham.
Ah, ben oui.
Est-ce qu'elle a l'air bête?
Fait qu'elle, ben écoute, elle n'aura pas de rides.
Elle aura pas, ça craquera pas dans le visage. Hein. Hey, mon Dieu, ça fait une dizaine d'années qu'elle ne se déride pas. Et
ouais.
C'est le genre new look, c'est un nouveau look. C'est le côté cool. Ça déferle aussi, vous l'avez remarqué, les filles qui se promènent, qui font le défilé, ont l'air toujours pas de sourire. Alors, ça fait partie un peu de ce monde, de pas sourire, d'avoir l'air sérieuse. Dans les magazines aussi, les mannequins. Et c'est inspiré, justement, il y a la mode, il y a aussi la musique, comme on parle de la scène avec les rappers. Et l'image, on veut aussi d'un l'image du bad boy. Dans le bad boy, il sourit pas. C'est un garçon qui a l'air sérieux et menaçant.
Ouais.
En 1988, pour le Vogue américain, il y a le photographe Peter Lindbergh qui a immortalisé des mannequins comme Estelle Lefebure, Karen Alexander, Rachel Williams et plus près de nous, la Canadienne Linda Evangelista et Christy Turlington. Je me souviens de cette photo. Elles étaient toutes en chemise blanche sur une plage de Santa Monica. Et elles avaient le sourire. Alors, pour l'auteur de cet article, a-t-on jamais vu des mannequins si libres, si enjoués et si pleines de vie et avec un sourire naturel si éclatant? D'ailleurs, je m'en rappelle, et écoutez, ça a été fait en 1988. C'est une photo qui est célèbre. C'est peut-être précisément ce moment qui a marqué l'apogée de la culture du sourire, cette fameuse photo. Et ensuite, venue une phase où les gens commençaient à moins sourire jusqu'à ce qu'ils finissent par se dissimuler derrière un masque. On se souvient bien de la pandémie, hein, parce que ça, c'était l'époque d'un temps dur, d'une atmosphère plus maussade. Mais pour l'auteur, est-ce une raison pour arborer perpétuellement un air pincé et mal luné? On se demande souvent pourquoi les super-héros dans les films, les mannequins sur les podiums et même les enfants dans la cour d'école, vissés à leur téléphone portable, ont tous l'air aussi peu amène, ont l'air si sérieux. Pour lui, ça n'a vraiment rien de cool. Et enfin, il dit, peut-être serait-il temps de se détendre et de faire de la place à un soupçon d'humour et de chaleur afin que le fameux sourire ne soit plus seulement l'ombre d'un sentiment et le souvenir de jours meilleurs, comme dans la chanson que nous avons écoutée avant cette présentation.
Mmh.
Hein?
Ouais.
C'est intéressant, par exemple, on ne voit pas à quel point le sourire peut avoir un impact, hein?
Un petit sourire, hein, ça fait du bien.
Oui. Hein? Puis moi, je pense que ce serait une bonne affaire. Ce serait bien, c'est de valeur qu'on puisse pas avoir cette exposition-là du sourire. Ça devrait, je sais pas si ça se promène. Si ça devait se promener, ce serait très agréable. D'ailleurs, le sourire, ça dépend aussi dans des cultures. Ça me rappelle, dans certaines cultures, que les gens ne sourient pas parce que ça peut être un signe d'arrogance, hein. Ça, selon les cultures. Ou garder, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux aussi, hein. Ça, c'est l'autoritaire. Je suis pas sûre si devant Poutine, on le regarde tous dans les yeux, là. Donc, on regarde un peu plus bas. Puis il faut faire attention parce que c'est ça peut être un signe d'arrogance, puis c'est dommage. Mais dans mon travail, j'ai appris à certaines gens de se débarrasser de cet air sérieux-là, parce que je disais tellement plus beau avec un sourire, mais ça va me prendre du temps à m'habituer, madame, inquiétez-vous pas.
Ouais. Puis pour plus aller, ben, ils se mettent du Botox, puis ça règle les problèmes de rire.
Ah, mon Dieu, ça fige le sourire.
Hey, Danielle, on se reparle pas avant le 13, parce qu'il n'y aura pas d'émission ici lundi prochain, le 6, étant, 6 avril étant le lundi de Pâques. Ben, et vous pourrez sourire avec vos dents remplies de chocolat.
Oh là là, oui que oui. Alors, je vous souhaite un bon congé de Pâques.
Merci beaucoup, à toi aussi.
OK, au revoir.
Au revoir. Un petit rappel météo. Écoutez, cette semaine, ça va être des grosses montagnes russes. Il fait beau aujourd'hui, il y a de la pluie, il y a toutes sortes de précipitations. Là, ça peut être de la pluie, de la neige, de la pluie verglaçante, dépendant des régions. À compter de demain, ça redevient sec, puis froid, je pense, mercredi. Et il y a un autre... Enfin, il y a trois systèmes qui viennent d'ici Pâques à nous affecter. Alors, il faut prendre notre mal en patience. Puis là, aujourd'hui, c'est pas mal partout pareil. Il fait quand même assez beau et chaud aujourd'hui. Profitez-en. Et nous, après la pause, on va en profiter pour, justement, tiens, on va sourire, on va parler du Festival des clowns de Montréal. Puis on va parler aussi, avec Martine Delvaux et Esther Laforce, du collectif Au bout de notre sang. Vraiment un très, très bon livre que j'ai lu, j'ai vraiment apprécié, puis je pense qu'on va avoir un bel échange là-dessus. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Buzzer à job, buzzer dans le buzz. Buzzer comme Snoop Dogg, le buzzer dans poste. Buzzer sur le moche, buzzer sur le buzz. Quand j'ai plus de buzz, j'ai envie de virer sur le top. Yeah, je suis buzzé, 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 buzzé. 365 jours par année. Buzzé, 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 buzzé. Toujours envie de fumer un deux papiers. Yeah, je suis buzzé. J'suis buzzé pis le party y'est pogné en place. Les couteaux sont brûlés pis j'ai du buzz en masse. J'ai les yeux fermés tellement y'a de la fumée dans l'appart. Les juges viennent de kicker, c'est pour ça que j'ai le sourire d'en face. Mais là j'ai les munchies, j'm'allume un blue dream pis j'me rends chez le maxi. Direct en rentrant j'bat trip, j'entends ma musique qui joue dans l'épicerie. Buzzé à job, buzzé dans le boss. Buzzé comme Snoop Dogg, le buzzé dans le poste. Buzzé sur le moche, buzzé sur le buzz. Quand j'ai plus de buzz, j'ai envie de virer sur le top. Et j'suis buzzé, 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 buzzé. 365 jours par année. Buzzé, 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 buzzé. Toujours envie de fumer un deux papiers. Et j'suis buzzé. Ça sent le printemps dans le bloc. J'allume un bois, viens prendre une puff. Comme Buzzy Boy, on veut le fumer jusqu'au cote. Buzzer à job, buzzer dans le boss. Buzzer comme Snoop Dogg, le buzzer dans le poste. Buzzer sur le moche, buzzer sur le buzz. Quand j'ai plus de buzz, j'ai envie de virer sur le top. Et j'suis buzzé, 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 buzzé. 365 jours par année. Buzzé, 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 buzzé. Toujours envie de fumer un deux papiers. Je suis buzzé. Je suis buzzé.
la chanson Buzzé de Jay Scott.
En tout cas, nous, je ne sais pas si on va être buzzé avec des champignons, du moche, comme il dit, mais on peut se buzzer en ayant juste du bon vieux fun. Ben oui, parce que c'est le festival de la 9e édition du Festival des clowns de Montréal, festival qui se tient du 10 au 18 avril prochain. On en parle tout de suite parce que la semaine prochaine, comme j'ai dit, je n'ai pas d'émission lundi parce qu'on est en congé pour la fête de Pâques. Et je reçois Vanessa Rigaud, qui est la directrice artistique et générale de l'événement. Bienvenue à l'émission, Vanessa.
Merci, bonjour.
Oui, on va buzzer, tiens. Je pense que vous êtes un clown vous-même, hein?
Ben, ça fait longtemps, en fait, que j'ai étudié le clown, mais maintenant, j'organise les clowns, qui est toute une autre forme d'art.
Ah oui, ben, vous pouvez pas trop nous dire ce que vous faisiez comme clown dans le temps?
Ah, ben, j'ai étudié avec Philippe Gaulier à Paris. Ça fait déjà quelques années, en 2004.
Oui.
J'étais toujours attirée à quelque chose un peu plus underground, un peu plus absurde. Mais j'ai joué avec des collectifs, j'ai fait des tournées. Je viens de Manitoba, alors fierté aux Franco-Manitobaines.
Puis, mais oui.
J'ai eu beaucoup de plaisir avec toutes sortes de public et de collaborateurs.
Ben, on aime ça parce qu'on est écouté partout au Canada ici. Alors, allô aux gens du Manitoba qui nous écoutent présentement.
C'est
puis
super.
On est bien content de recevoir une des vôtres qui, bon, ben écoute, on va parler d'intersectionnalité clownesque. Allons-y. Alors donc, vous êtes... puis je pense que votre goût du clown ou votre façon de faire le clown... ça se reflète dans la programmation, on va y revenir, parce que dans ce festival, ben, on est vraiment dans un contexte difficile. Alors, c'est quoi pour vous l'importance de revendiquer cette joie-là, la joie de comme acte de résistance?
Oui, et je voulais juste toucher aussi parce que j'ai écouté à votre émission dans les derniers jours et il y a vraiment une thématique avec la joie, avec les sourires et tout. Alors, les clowns, c'est vrai, un peu côté philosophique, mais ils sont un symbole de la vérité et ils ont le droit de parler des choses qui sont peut-être un peu plus inconfortables, je sais pas, mais à travers une façon différente. Alors, tout à fait une vision unique. On s'appelle ça des fois la logique des clowns. On ne sait vraiment pas comment ils vont présenter, mais chacun a une vision unique et ça peut être inconfortable avec les bouffons, disons, ou ça peut être complètement avec un sourire, avec un nez rouge qu'on voit beaucoup. Mais c'est vraiment ça à la base.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire un festival hein, qui recueille des artistes, qui accueille des artistes de Zagreb, de Tokyo, de Philadelphie? Parce que ces gens-là ne parlent pas tous la même langue, mais ils parlent le même... ils parlent clown, j'imagine.
C'est ça. Je pense que le langage du clown, c'est vraiment un langage de la cœur, du cœur et puis des émotions.
Ouais.
Aussi, c'est très physique. C'est ça vient du cirque d'un côté, d'un autre côté, c'est théâtral. Alors, il y a beaucoup de différents langages du corps, du jeu. J'aime ça dire que le jeu, c'est vraiment à la base du langage du clown.
Ouais, le clown, il se moque de lui-même ou d'elle-même, hein, pas des autres. C'est vrai, quand on va dans plusieurs numéros de cirque où il y a des clowns, c'est souvent ça. Hein. Et puis, en se moquant de lui-même, ben, nous, quand on le regarde, on voit nos propres travers.
C'est vraiment ça. C'est un miroir, on dit, à la société. Et ça marque aussi une vulnérabilité dans le performeur qu'il faut se mettre comme ça juste avant le monde et vraiment inviter une vulnérabilité.
Je reviens sur la question de départ parce que je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, mais en fait, on ne parle pas la même langue, mais quand c'est un clown qui se présente, on finit tous par comprendre.
Je pense que c'est bien dit, ça. Et la programmation, ça reflète des différentes langues, c'est sûr. Ici, moi, comme anglophone, je veux rassembler un bilinguisme. J'ai des spectacles qui sont en français, qui sont verbales. J'ai deux spectacles en anglais Et j'ai beaucoup de spectacles qui utilisent juste le langage du corps. Ouais. Et on s'attend à se comprendre à travers des jeux et du clown.
Ah oui, puis on rit tout le temps. On rit tout le temps parce qu'il y a toujours quelque chose qui est universel. La blague, le coup de pied au derrière, c'est souvent universel. C'est toujours performé d'une façon très drôle d'un clown à l'autre, puis on finit par rire. C'est impossible de ne pas rigoler. En du moins, il ne faut vraiment pas avoir le sens de l'humour. Maintenant, on va dépasser largement dans votre programmation le nez rouge traditionnel, parce que vous allez quand même dans plusieurs sortes de genres de clowns. Des clowns peut-être plus sombres, plus décalés. On parle de Madame vous déteste et Creepy Boys.
Oui, c'est un peu l'horreur et les bouffons.
Ouais.
Est-ce que quand je dis le bouffon, est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose un peu nouveau? Je ne sais pas.
Bouffon, c'est assez... Non, c'est très, très, très connu.
Okay.
Ouais, les bouffonneries, hein, on aime bien rire, oui.
Oui, alors c'est peut-être plus inconfortable, des choquants.
Mm-hmm.
C'est pas tout de suite le rire, ça vient peut-être à... après
ouais.
le spectacle, parce qu'on est, vraiment dans ce moment de choc, de qu'est-ce qu'il fait, de wow, OK. Alors, les Madame vous déteste, c'est deux performeurs dans un collectif qui s'appelle les Talents Fous.
Mm-hmm.
Et ils utilisent le pole dance. Ils sont très interdisciplinaires. C'est un spectacle qui est basé sur les bonnes de Jean Genet. Et il va très, très loin dans la douleur et vraiment pour regarder à les relations entre le pouvoir et ceux qui n'ont pas. Alors, okay. C'est très philosophique, très, très visuel et... c'est très unique et j'ai vu ça au Festival de Fringe cette année à Montréal. Et c'est un groupe qui travaille très fort et qui sont très, très uniques. Et je pense que sont vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. Et il n'y a pas une panne là, mais
ouais.
Peut-être il y a.
parlons rapidement là, du spectacle d'ouverture. C'est au Jésus, Gala Cabaret, qui est dirigé par Joe de Paul. On s'attend à quoi?
Ben, c'est un grand spectacle de variété. On a 10 artistes du cirque et du clown. C'est là qu'on va voir l'artiste de Zagreb, une de Tokyo qui vit à New York. Mais c'est vraiment une casting qui est internationale sous la direction de Joe de Paul qui, si tu connais pas, il est une clown, une professeure de clown. Il était sur Broadway l'année passée comme comédien dans un spectacle de cirque qui s'appelle Like Water for Elephants.
Ouais.
Et puis, les maîtres de cérémonie, ça va être Yann Dutler et Benjamin Tremblay-Carpentier, qui sont des musiciens. Yann a joué avec le Cirque du Soleil à Ovo pendant des années et ça va être des surprises, des conneries, des rires. On va avoir certaines surprises aussi. Il y a un groupe, une chorale, qui sont pas peut-être les clowns, mais ça donne une surprise et quelque chose à travailler. Ce sont des, je sais pas, c'est des heavy metal,
ouais.
Une chorale de heavy metal. Est-ce que ça fait du sens?
Oui, une chorale de heavy metal. Il y a certainement ça a pas de sens, mais c'est pas grave. Je pense que ça va en faire. Je vais devoir arrêter ici, Vanessa Rigaud. Vraiment, ça va nous faire du bien. J'ai l'impression que du 10 au 18 avril prochain, ici à Montréal, le Festival des clowns de Montréal. Et pour plus d'informations, on va sur le site web du festival, donc qui est MTL Clownfest, mtlclownfest en un seul mot.com. Je remercie donc Vanessa Rigaud, directrice générale et artistique du Festival des clowns de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Levez la main, chers amis, mes amis, mes chers amis de femmes qui sont dans la ménopause. Oh là là! C'est-tu un chalet? Bah, consolez-vous, ça va passer, puis il va arriver d'autres choses. Je vis ma ménopause. Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Je vois, je vois, je vois l'avenir en rose. Car j'attends l'os, oui j'attends l'os, j'attends l'ostéoporose. Je suis la chanteuse en chaleur qui habite l'île des sueurs. J'ai des vapeurs, j'ai des bouffées, mon système est déréglé. Même nu comme un veau, j'ai chaud, je vis, ma ménopause, je vis ma ménopause, c'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Je vois, je vois l'avenir en rose, car j'attends l'os, oui j'attends l'os. J'attends l'ostéoporose.
Merci. Bon, bon. Ben, je vais donner un peu le ton à l'entrevue qui s'en vient, parce que c'est un sujet sérieux, mais c'est aussi un sujet où je pense que les personnes qui le vivent ont besoin d'un petit sourire de temps à autre. Et je parle donc de ce bouquet qui s'appelle « Au bout de notre sang ». C'est intéressant, là. C'est un gars qui va faire l'entrevue sur ce sujet-là, qui est le sujet des femmes qui vieillissent et qui vivent le silence autour des menstruations, de la ménopause et du vieillissement. Et pour donc discuter de tout ça, je reçois les deux co-directrices du collectif Au bout de notre sang, Martine Delvaux, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup, et Esther Laforce. Allô, toutes les deux. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Bonjour.
Bon, j'ai commencé dans l'humour. Est-ce que j'avais raison de le faire?
Ben oui, pourquoi pas?
Ouais. Hein?
Oui, oui. On n'est pas, straight, là. On accepte tout ça.
Mais surtout que j'ai lu certaines des autrices m'ont tellement fait rire. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un livre qui est sérieux, mais il y a quand même de l'humour. Puis je trouve que ça aide à comprendre. Mais pourquoi c'est encore tabou de parler de la ménopause? On est quand même 40 ans là, après la création de cette chanson qu'on vient d'entendre de Clémence Desrochers.
Oui.
Merci.
Ben, c'est de moins en moins tabou. Hein. Je pense que là, au cours des dernières années, il y a eu pas mal de discours qui sont élaborés autour de ça, même des discours scientifiques, médicaux. On ne s'intéressait pas tant que ça à la ménopause jusqu'à assez récemment. Et moi, je suis assez convaincue qu'il y a toute une masse critique. C'est-à-dire qu'on arrive à un âge, on est toute une armée de femmes qui sont ménopausées en ce moment ou pré-ménopausées. Et bien, on est dans l'espace public de différentes façons.
Ouais.
Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, là, tout d'un coup, c'est un peu moins tabou que ça l'était.
Je vais aller de votre côté. Esther, vous êtes quand même une chercheuse et votre travail porte surtout sur la figure de la femme silencieuse. Alors, comment le passage du biologique au littéraire vous permet de transformer cette étape de vie, là?
Oui, ben ça me permet de la réfléchir. Pourquoi on a été tue? T'sais, le tabou, dans le fond... Je pense que c'est sur toute la vie des femmes en général qui pèse. Et oui, ce silence-là, ben, il revient hein, dans certains textes, là, notamment celui de Pascal Cormier,
oui.
Qui vraiment nomme un peu la condition avec lesquelles on vit les femmes souvent. On est tue, on est remise au silence. Donc, oui, voilà.
Beaucoup de le mansplaining hein, qui arrive et qui... Bon oui, je vais vous expliquer ce que vous ressentez. C'est un petit peu le malaise que je vais vous le dire, que je ressentais en voulant aborder ce sujet-là, mais en même temps, je me dis, il est à peu près temps que les hommes s'intéressent à ce que vivent les femmes aussi. Alors, je ne sais pas comment vous... je ne sais pas comment vous abordez ça, le fait qu'un gars vous interviewe sur un livre qui porte sur la ménopause.
Et moi, je ne me suis même pas posé la question,
oh, good.
Honnêtement.
Okay.
Ouais. L'idée, c'est de mettre le livre en valeur puis de mettre ces voix-là en lumière. Donc, peu importe qui nous interviewe, ça n'a pas tant d'importance. Mais c'est vrai que dans tout ce qui concerne les femmes, ça concerne tout le monde. C'est pas la moitié de l'humanité que ça concerne, c'est que ça concerne tout le monde. Et c'est peut-être ça la lutte féministe, En fait, depuis tout le temps, c'est d'essayer de crier de plus en plus fort, mais voyons comment ça se fait que vous n'êtes pas concerné par ça. C'est pas, ça serait pas normal, à mon sens, que bon, dans certains cas, la ménopause, c'est extrêmement souffrant et que le corps médical masculin ne se soit pas intéressé à ça, que les époux, les chums, les fils, ils doivent se sentir concernés par ça. C'est vraiment une partie hyper importante de la vie d'une personne. En tout cas, qui a un appareil génital considéré féminin, là.
Il y a quand même toute une diversité de points de vue et on aborde tous les clichés, on les aborde de front, ils existent, là, les bouffées de chaleur. Je pense même à Jennifer Macaroni qui a fait une sortie publique récemment parce qu'on n'en pouvait plus subir la chaleur lors d'un événement. Et on en parle de front ouvertement. Vous espérez quoi qui se passe avec ça, que les gars finissent par comprendre que c'est quoi de vivre ça?
Ben, je pense qu'il y a vraiment une demande d'être entendue. Puis aussi, tu sais, je pense que la ménopausée, on s'en est beaucoup moqué. Puis en s'en moquant, peut-être on s'en débarrassait un peu. Je veux dire, c'est la disparition de la ménopausée dans le, tu sais, la disparition, enfin, l'ignorance que la ménopause, a subi dans le fond, dans le champ médical, c'est aussi un peu dans l'imaginaire que ça se passe, où c'est comme une figure dont on se moque de ses bouffées de chaleur, on se moque de ses montées de lait, comme si c'était pas important, comme si c'était pas quelque chose qui avait un poids. Puis je pense que la figure de la ménopausée s'est peut-être cristallisée aussi dans pas grand-chose, dans quelques clichés, justement. Puis je pense que le collectif vraiment vient faire sauter tous ces clichés-là. On va ailleurs, il y a une diversité de voix. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que plus on va parler de la ménopause, plus les femmes vont en parler, plus il y a une diversité de femmes qui vont en parler. Ben, on va l'entendre. Puis, c'est un peu ça qu'on réclame, là, d'être entendu
Ouais.
dans ce passage-là de la vie.
Oui.
Au-delà de la caricature,
Oui.
parce que c'est facile de caricaturer, mais je pense qu'il y a une manière aussi de valider,
Oui.
de faire que des femmes, dans la grande diversité des expériences, hein, parce qu'il n'y a pas deux ménopausées qui vivent la ménopause de la même façon. Donc, il y a une validation, je pense, à travers ce collectif-là, parce qu'il y a une grande variété de voix, parce qu'il y a une grande variété de manières d'aborder la question. C'est pour rendre ces différentes expériences-là audibles, lisibles.
Moi, ce que j'en retire aussi, je pense à certains textes, comme celui de Penelope McQuaid, qui parle de la douleur qu'elle vit, parce que, bon, évidemment, ces changements-là viennent avec tout plein d'effets secondaires, et ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup.
Oui, absolument. Ça peut être extrêmement débilitant, cette
Oui.
période-là de la vie. Et dans cette grande variété de textes et de voix, il y a toutes sortes de dimensions psychosociales, proprement biologiques, dans le rapport au médical, dans le rapport aux proches. Toutes ces dimensions-là de l'expérience de la périménopause ou de la ménopause sont explorées. Mais oui, ça peut être extrêmement douloureux et c'est dévalué. En fait, elle n'est pas prise en compte tant que ça, cette douleur-là, cette souffrance-là. Quand une femme ménopausée ou préménopausée souffre de brouillard mental, moi, j'arrivais plus à travailler.
Ah
C'est
ouais.
gravissime, là. C'est mon cerveau et mon outil de travail principal, on pourrait dire, puis j'arrivais plus à travailler. Donc, c'est pas mineur dans l'expérience de vie. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce collectif.
Comment avez-vous
Ouais, puis je
choisi?
pense
Oui, allez-y,
que.
Esther, oui,
Non,
allez-y.
mais je pense que nous-mêmes, comme femmes, quand on le vit, on a de la difficulté à dire, voilà, c'est ma ménopause, tu sais, l'ignorance qu'il y a eu dans le champ médical, c'est aussi nous qui, parfois, ne connaissons pas bien notre expérience, puis on a de la misère à dire, c'est ça qui arrive, et à réclamer justement les soins qu'il faut pour ça.
J'aimerais
Ouais, il y a une
revenir.
grille de lecture, hein, faut
Oui.
pouvoir lire ces symptômes-là.
Oui. Je trouve intéressant. Bon, je ne vais quand même pas m'en cacher. C'est une amie très, très, très chère à moi, Pascale Cormier. J'ai vraiment. Son texte m'a. C'était un coup de poing. Et
Ben pour
là,
nous aussi.
on peut le dire, Pascale est une femme trans et j'aime beaucoup comment elle raconte, comment tout à coup elle a découvert, ah, maintenant que je suis une femme, il faut que je me taise.
Ouais, mais nous, on a été bouleversés par son texte.
Ouais.
Vraiment, moi, j'ai fondu en larmes, je l'ai fait lire à ma fille. J'ai dit, c'est incroyable, elle met le doigt sur l'essentiel. Vraiment, on est hyper choyés qu'elle nous ait donné ce texte-là à publier.
Ça a été difficile. Je lisais quelques textes. Je ne vais pas vous interrompre, mais j'essaie de me rappeler. Mais il y a un texte que j'ai lu, en fait, deux textes où on disait, j'avais vraiment pas le goût d'écrire là-dessus, mais je l'ai fait pareil parce que Martine me l'a demandé ou Esther me l'a demandé. Ça veut dire quoi, ça?
Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, tu sais, il y a le fait que on en a quand même beaucoup parlé dans les médias, peut-être dans les dernières années, mais mélangé au fait aussi qu'on connaisse pas tant la ménopause. Puis, fait que je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être un peu de ces choses-là qui travaillaient les autrices, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles l'ont fait quand même.
Ouais.
Puis elles l'ont fait parce qu'elles pensaient à d'autres personnes. Elles l'ont fait comme Virginia Bordelot. À la fin, elle dit, je le fais pour ma fille. Il y a quelqu'un qui la pousse à le faire. Et puis, Chinsella aussi le fait pour donner la voix à des femmes qu'on n'entend pas dans l'espace public. En fait, elle fait comme un peu mettre en sourdine l'expérience de la ménopause pour dire mais pourquoi je parlerais de ça si ma voix, même comme femme asiatique, n'est pas entendue dans l'espace public. Donc, c'est intéressant, c'est comme il y a comme une responsabilité finalement dans cette prise de parole-là.
Parce qu'on déborde. Allez-y, Martine, oui.
Non, il y a comme un sous-texte de disparition des
oui,
femmes.
C'est ça.
De manière générale. Hein. Fait que la ménopause devient comme le prétexte pour explorer cette question de la disparition des femmes.
Parce que oui, il y a tout le problème de l'invisibilité des femmes en général. Est-ce qu'il empire avec la ménopause, c'est ça?
Bien, c'est ce qu'on dit, hein, ouais. De manière très, très courante, on entend ça, puis avec raison, c'est qu'il y a comme la disparition, on pourrait dire, puis là je le caricature parce qu'on n'a pas le temps, là,
ouais,
mais il y a une disparition des femmes, du marché des femmes, on pourrait dire, parce que, bon, l'indice de la beauté diminue, parce qu'on devient ridé, parce qu'on a moins d'énergie, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont liées au vieillissement. Mais l'âgisme dans notre société est une dimension qu'il faut prendre en considération, l'âgisme en général, pas juste en ce qui concerne les femmes. Si notre population est extrêmement vieillissante, ben il va falloir s'attarder à cette question-là. Et d'un point de vue féminin, ben la ménopause est comme le moment où, alors que les hommes qui vieillissent à la même période de la vie gagnent en autorité, gagnent en valeur sociale, on leur fait confiance, on considère que ce qu'ils ont à dire est important. Les femmes qui vieillissent à ce moment-là de la vie sont plutôt dévaluées alors qu'on est au top de notre performativité. On est au top de ce qu'on peut donner à la société. On est pourtant tassé. Et ça, c'est pas un mythe. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, le collectif a aussi à voir avec ça.
Je vais me permettre de sortir un petit peu du livre parce que, Martine, je veux vraiment te poser une question. Si tu me permets, je te tutoie. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es très présente sur les réseaux sociaux, mais mon Dieu, qu'il y a des moments où tu dois te dire « je ne veux plus être là » parce que c'est pas facile pour une femme d'être publique.
Non, c'est sûr que ça, c'est un combat de tous les instants. Puis j'avoue que pour moi, c'est un peu moins difficile en ce moment que ça l'a déjà été avant. Là.
Ouais.
Peut-être que ça a à voir avec l'âge, d'ailleurs. Peut-être que moi, j'ai gagné un peu en autorité. Mais c'est difficile, on le voit. Il y a le coup de massue qui tombe sur les femmes et surtout sur les féministes dans l'espace public, il est constant. C'est vraiment une lutte de tous les jours.
Oui, je me permettais cette question parce que je trouve ça important de le souligner, mais je vais quand même rappeler que Martine Delvaux et Esther Laforce, vous êtes toutes les deux la co-directrice de ce livre « Au bout de notre sang », et c'est un livre qui ne s'adresse pas qu'aux femmes. Messieurs, allez lire ça, vous allez peut-être en apprendre sur vous-même. Moi, j'en ai appris sur moi-même, et pourtant, je ne suis pas une femme. Merci beaucoup toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
Merci à vous.
Merci, à la prochaine. Et je rappelle donc que le livre « Au bout de notre sang » est publié chez AMAC. Il est disponible en librairie sous la direction de Martine Delvaux et Esther Laforce. Eh bien, dans la presse du 27 mars, un texte d'opinion sur le projet de loi 23 qui encadre l'hospitalisation forcée suscite donc de vives inquiétudes. L'avocat Patrick Martin-Ménard estime que le gouvernement commet une erreur de diagnostic en privilégiant la contrainte légale plutôt que l'accès réel aux soins. L'auteur affirme que faciliter l'évaluation psychiatrique sans consentement est une voie facile et dangereuse. Et en élargissant ces mesures d'exception, l'État risque de transformer la garde en établissant un simple outil de gestion de vulnérabilité à une faute de suivi préventif. Donc, on rend les choses plus faciles, hein, de pouvoir mettre les gens en institution. Alors, pour les opposants, ce projet ne règle pas la crise. Il intervient par force uniquement lorsque le point de rupture est déjà atteint. Alors, le projet de loi 23 modifie la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. La Charte des droits et libertés de la personne garantit le droit à la liberté, à l'intégrité et au consentement aux soins. Ce projet de loi, donc, qui change les choses et ne fait pas l'unanimité. J'ai le temps pour vous dire qu'après la pause, on va parler d'une pièce de théâtre, plutôt de marionnette aussi, croyez-vous au fils, si je ne me trompe pas, parce que j'ai mes recherches devant moi. Et je peux vous parler aussi par la suite du livre « La somme de nous » de Denis Morin et Michel Lemieux. Tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Mes skills sont prêchés, je suis en bonne position à battre les déchets. Moi, je veux battre les singles, je guette le cachet. Fais mon ramène, t'es oublié pas sachet.
On allait un peu vite, ma petite madame.
C'est le même film, c'est le même fear, comme on drive in quand je check it.
La green light, je sais. Mon histoire de tempête, je le fais.
Laurence Nerbonne, sa chanson « Green Light ».
Ah, croyez-vous aux fées? Ben moi, quand j'étais petit, je croyais, et je l'aimais beaucoup, à la fée des dents. J'aimais ça avoir, dans mon temps, c'était un gros 25 cents sous l'oreiller. Maintenant, je pense qu'ils mettent des pièces de deux, je sais pas. Ben, de nos jours aussi, je crois à la bonne fée de la radio. Bon, excusez-la, c'est plus fort que moi. Ben, sérieusement, le collectif Les Tables Tournantes présente sa nouvelle création au théâtre aux Écuries du 7 au 18 avril et qui s'intitule, vous l'avez deviné, croyez-vous, aux fées. Et ça nous plonge dans une relecture assez percutante, peut-être même sombre, du mythe de Peter Pan, loin des versions édulcorées auxquelles nous sommes habitués. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Joannie Fortin et Iris Richard du collectif. Bienvenue au studio.
Merci.
Alors, je ne me suis pas trompée. Joannie, je commence par toi. Mm-hmm. Ah, d'abord, je t'ai vu au théâtre récemment, dans Réalité parallèle. C'est un petit peu des marionnettes, ça aussi. Hein?
Oui.
L'animation, oui.
Du théâtre de papier, la pire espèce font du théâtre d'objets. Ça, c'est dans la grande famille du théâtre de marionnettes.
Oui, Réalité parallèle, et je vais le dire, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu le show, puis j'espère que ça va être représenté bientôt. Bon, on va aller sur la pièce présentement. Alors, le point de départ de l'œuvre, c'est un drame domestique violent qui survient dans une salle de lavage. Je dis, vous autres, vous en avez de l'imagination. Alors, comment l'univers de Peter Pan s'est-il imposé pour traiter un sujet aussi difficile que les violences intrafamiliales?
Mm-hmm. En fait, on a commencé à travailler autour du mythe de Peter Pan, mais il est vraiment en filigrane maintenant dans la pièce.
Puis rappelons le mythe de Peter Pan.
Le mythe de Peter Pan, donc, c'est un petit garçon qui décide de ne plus grandir. Il refuse de grandir.
Comme bien des hommes encore.
Oui, il y a le syndrome de Peter Pan qu'on appelle en psychanalyse ou en psychopop, je ne sais plus si c'est plutôt psychopop, le syndrome de Peter Pan, le refus d'affronter les responsabilités et rester un petit garçon éternellement. Mais on est quand même... on a dérivé du mythe un peu. On s'en inspire encore beaucoup, mais c'est plutôt les fées qui sont autour de Peter Pan qui nous intéressent.
Ah oui. Oui. Iris, on décrit Peter comme un enfant dont la mémoire est fragmentée. Par le traumatisme. Alors, quel rôle joue la marionnette dans la représentation de la dissociation et du souvenir?
Bien, en fait, c'est ça. C'est sûr que déjà, Peter Pan, on ne l'a pas pris par hasard non plus parce que c'est un enfant qui refuse de grandir. Or, une marionnette, c'est un objet éternel. C'est un enfant qui ne grandira jamais, de fait.
Oui, c'est vrai.
Et il y a quelque chose de très fort dans la question du souvenir, déjà à l'origine dans l'œuvre de J.M. Barrie, l'œuvre originale de Peter Pan, qui date du début du XXe siècle, 1904, c'est la première mise en scène. Et donc, Peter Pan, il a un rapport au temps qui est d'ores et déjà complètement différent d'une autre, puisqu'il ne grandit pas, donc il est dans un présent éternel. Mmh. Et nous, on a mis ça en lien avec la question de la mémoire traumatique, qui est une mémoire qui revit le traumatisme en permanence. Et donc, c'est une sorte de vécu du temps présent, mais en l'occurrence, c'est un présent de souffrance quand même, parce que c'est de ça dont ça parle du traumatisme. Et donc,
quand même. Et puis, vous utilisez des objets du quotidien, hein, comme une laveuse, une planche à repasser, qui deviennent des prolongements de la mémoire de Peter. Alors, comment avez-vous travaillé dans cette transformation de l'ordinaire vers le fantastique?
Ben, je pense que c'est déjà présent dans notre travail depuis longtemps. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Joannie.
Oui, ben, j'utilise le terme du réalisme magique, en fait, pour parler de ça, mais où le symbolisme aussi, c'est comment... On part des objets, en fait, on crée un univers cohérent, puis on détourne la fonction de l'objet. La planche à repasser devient un brancard. C'est très polysémique. C'est vraiment comment une seule chose peut être réutilisée pour créer différentes images. Fait que les laveuses sécheuses aussi, le symbole du cycle qui tourne sans fin, le cycle de violence. Mm-hmm. Et aussi de la mémoire traumatique, évidemment.
Mais du coup, il y a quand même aussi, évidemment, quelque chose d'un peu enfantin, déjà, à la base de ça, c'est-à-dire de détourner les objets, ce qu'on fait tous enfants, c'est-à-dire de prendre un objet d'un adulte et en faire autre chose par le jus, le transformer, transformer un balai en cheval, par exemple. Bon, tu vois, c'est chevaucher un balai, puis ça devient cheval, peu importe. Cette idée de de prendre un objet et de le détourner, c'est vraiment un jeu qui, je pense, que tout le monde a déjà expérimenté. Puis nous, on l'utilise comme base pour l'écriture scénique, en fait.
Il y a un crocodile dans cette pièce. Mm-hmm. Bon, je peux pas m'imaginer qu'on trouve ça facilement dans une salle de lavage. Du moins, je vais vérifier ma lessiveuse la prochaine fois. Mais sérieusement, quel rôle ce personnage joue-t-il?
Ben, c'est pareil, il y a un crocodile dans l'œuvre originale.
Ouais.
Et le crocodile dans l'œuvre originale, c'est le symbole du temps, puisqu'il a avalé un réveil qui fait tic-tac, qui poursuit le capitaine Crochet sans cesse. Et c'est la figure du temps, mais en l'occurrence, dans cette version-là, dans notre version, c'est un guide. Justement, c'est plutôt lui qui va essayer de remettre le temps à l'endroit, quelque part.
Et il sort d'où, lui? Il sort de la lessiveuse ou quoi?
Il sort du linge sale.
Il sort du linge sale, je m'attendais à ça.
Ouais, mais c'est ça, c'est pas un crocodile ordinaire, c'est un crocodile qui fait de linge sale.
Ah,
donc,
wow.
Sans vouloir spoiler. Mais
là vous, je suis curieux, j'ai pas vu le spectacle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a l'air de quoi, tout ça? C'est des marionnettes à grandeur humaine? Comment ça fonctionne?
Oui, donc il y a une marionnette principale qui est celle du petit garçon, qui est taille humaine, enfant de 5 ans, et on la manipule à vue. Ensuite, il y a le crocodile, et il y a le crocodile, je vais vous laisser le découvrir, je veux pas... J'en ai déjà dit plus, mais qui est assez... fantastique, qui est pas, c'est pas un crocodile.
Ça doit pas être simple, par contre. Je vous ai vu travailler sur cette autre séquence. Quand même, c'était des petits objets. Là, on parle de gros objets, quand même. Là.
Ils sont quand même gros, mais c'est pas non plus des marionnettes géantes, mais c'est à taille échelle humaine, oui, okay. On va dire.
Vous proposez une relecture, donc, de ce conte. Est-ce qu'on peut parler d'une lecture peut-être plus féministe des choses?
Oui, complètement. Ben, ouais. C'est ça, on est parti vraiment, croyez-vous aux fées, c'est dans le titre. Ça vient aussi du fait que justement, dans l'univers original de Peter Pan, il y a les fées, il y a Clochette, il y a la magie qui est omniprésente, mais finalement, les personnages féminins sont quand même vraiment au second plan, comme dans beaucoup de nos grands récits.
Ouais.
Et donc oui, c'est sûr qu'il y avait cette volonté dès le départ. Mais je pense que Joanie pourrait peut-être parler plus de la question de la violence conjugale. Ou
ben
de...
oui, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'on choisit de croire finalement?
Oui, puis c'est le débat qui fait partie de la pièce. C'est assez binaire dit comme ça, mais tu crois papa ou tu crois maman, en fait, dans le scénario qu'on a créé à partir du mythe. Mais donc, toute la parole des femmes qui subissent des violences, est-ce qu'on la croit?
Ben voilà, j'allais là.
Croyez-vous aux fées? Croyez-vous à ces paroles qui sont souvent... qui rencontrent souvent de la fatigue ou beaucoup de doutes aussi dans le paysage médiatique et aussi dans le quotidien, est-ce qu'on les croit de s'exprimer? Est-ce qu'on... Ouais. Voilà. Donc,
je pense que les gens vont être surpris de ce qu'ils vont voir dans cette relecture de Peter Pan.
Mm-hmm.
Alors, pourquoi Peter Pan encore?
Parce que, aussi, Peter Pan, c'est c'est un petit garçon qui utilise l'imagination pour surmonter ce traumatisme-là, si on est dans l'aspect plus positif de Peter Pan, pour surmonter la cruauté de la réalité. Et nous, on fait la même chose. On fait de la marionnette pour transcender cette réalité-là ou cette situation-là qui est vraiment difficile et qui serait vraiment lourde si on n'utilisait pas de la marionnette.
Wow.
Pour nous, en fait.
Ouais,
là.
Ouais.
Ouais.
C'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde?
Oui.
Ou plus aux adultes?
À partir de 12 ans, pardon.
À partir de 12 ans, oui.
C'est pour les adultes.
Ouais.
C'est sûr que ça s'adresse aux enfants qui sont en nous, en fait. Ça s'adresse à l'enfant intérieur de tout le monde. Donc, c'est pour les adultes, mais c'est pour les adolescents aussi, à partir de 12 ans, oui.
Alors, Eris Richard et Joanie, attends un petit peu, mais oui, voilà, et Joanie Fortin, je voudrais vous remercier infiniment de passer à l'émission. Moi, j'ai hâte de voir la première médiatique qui est donc dans 2 semaines. Et je rappelle que c'est la pièce qui s'appelle « Croyez-vous aux filles » qui est présentée au Théâtre aux Écuries du 7 au 18 avril. Et ben, on vous dit le mot de Cambronne?
On le prend.
Moi, je veux qu'on parte en char, comme quand on était jeune, écrire une page d'histoire. Ça coûte pas une cent, je veux perdre la carte encore, comme au début de la vingtaine, puis qu'on avait l'espoir d'une vie qui vaut la peine. Ça fait longtemps, trop longtemps, qu'on s'est perdu de vue. Les années passent, la route est longue, puis on s'appelle même plus. Mais je garde en tête les vieux souvenirs, puis tout ce qu'on a vécu. Le net d'or qui est ben trop rouillé, qui nous gardait dans la rue. Depuis nos vieux chums, les nouvelles blondes, nos premières jobs, puis rien dans le compte. On a pris chacun notre bord, mais là je pense qu'on est dû. Je veux qu'on parte un char, comme quand on était jeune, écrire une page d'histoire. Ça coûte pas une scène, je veux perdre la carte. Time. I was working on myself, ignoring all the sun. Drinking whiskey out the bottle. How did I end up in El Dorado? Ain't young and dumb, but we ain't done. Might have lost some around the sun. Hope we never forget where we came from. Je veux qu'on parte en char, comme quand on était jeune, écrire une page d'histoire. Ça coûte pas une scène, je veux perdre la carte encore. Comme au début de la vingtaine, dit qu'on avait l'espoir d'une vie qui vaut la peine.
Depuis nos vieux chums, les nouvelles blondes, nos premières jobs, puis rien en compte. On a pris chacun à bord, mais là je pense qu'on est dû. Depuis nos vieux chums, les nouvelles blondes, nos premières jobs, puis rien en compte. On a pris chacun à bord, mais là je pense qu'on est dû.
Ça fait longtemps, trop longtemps qu'on s'est perdu de vue. Les années passent, la route est longue, mais là, je pense qu'on est dû.
Je pense qu'on est dû, une chanson de Fred Dionne, de Zach Chico et de Benjamin Nadeau.
Une lettre anonyme déclenche une suite d'événements parfois surprenants, d'autres touchants ou encore choquants. C'est le point de départ d'un roman écrit à 4 mains, bien oui, La Somme de nous. Je reçois 2 créateurs dont les univers se croisent d'une manière inédite, l'auteur et poète Denis Morin et l'artiste multidisciplinaire Michel Lemieux. La Somme de nous, donc, qui est leur livre, est publié aux éditions TNT. C'est un voyage de Rivière-du-Loup à la France d'après-guerre et explorant les secrets qui unissent les générations. J'en dis pas plus. Bonjour à vous deux, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Michel, oui, bonjour Denis.
Bonjour.
Denis, je vais commencer par toi parce que tu portes cette histoire depuis longtemps. Qu'est-ce qui était l'étincelle de départ là, pour ce récit qui traverse 3 générations?
À la base, le texte a été créé durant la pandémie en 2021. En écoutant du Jean-Michel Blais, puis initialement, c'était publié en France sous le titre d'etc. Et, quelques années après, l'éditeur en France me contacte, me dit « Bon, ça te dérangerait-tu ou serais-tu intéressé à ce que ça soit publié à Montréal chez TNT? » Fait que je dis « Ouais, je connais TNT. Bon, il y a une bonne implication sociale. »
Oui, je veux dire que TNT, c'est une entreprise d'économie sociale.
Ouais.
Alors, ils sont très, très proches des jeunes et des auteurs en développement et tout ça.
Donc, ouais. Finalement, je dis « Allons-y ». Je présente le texte à Michel. Michel le regarde, il dit « Est-ce que... » Ben, je dis « Écoute, mets des notes en bleu, mais les notes se sont développées, ont pris de l'ampleur, puis là, il était mal à l'aise. » Puis à un moment donné, je dis « Je te donne le feu vert, donc c'est dans ta cour. »
Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec un roman vraiment écrit à deux, parce que le premier roman, la première version du roman, etc., était de 150 pages.
Tout à fait.
Maintenant, on est presque le double.
Oui.
Donc, il y a eu beaucoup de bleu qui s'est ajouté. En fait, je suis parti...
Pourquoi la couleur bleue, Michel?
Bon, comme ça, parce que c'est la couleur, une belle couleur, la couleur du ciel. Mais je me plais à dire que j'ai été, au départ, un peu comme un metteur en scène littéraire. J'ai vraiment questionné Denis sur les intentions des personnages, sur les dialogues. Je disais toujours à la blague, mon actrice, elle ne dira pas ça, cette réplique-là, parce que ce n'est pas dans sa langue, c'est dans la langue de l'autre personnage. Alors, on a fait une espèce de remaniement complet d'analyse de personnages. Et puis, ben, de fil en aiguille, ben, j'ai mis du mien tellement que là, on ne sait plus trop qui a écrit quoi.
Tu as mis de l'humour.
J'ai mis beaucoup de dialogues, beaucoup d'humour, beaucoup de descriptions de lieux, ce qui avait pas
alors
beaucoup...
Alors ça, c'est le metteur en scène en toi, Michel, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, tu es quand même quelqu'un qui est un artiste pluridisciplinaire. Tu en as fait des trucs dans ta vie.
Oh oui, depuis presque 45 ans.
Oui. Est-ce que je peux parler d'éléphant dans la pièce, si vous me permettez?
Ben
vous êtes en couple.
Oui.
Alors, c'est un peu... C'est, quand on parle de la somme de nous, moi, j'ai vu aussi la somme de vous deux.
Oui, ben c'est un peu ça. C'est pas notre histoire.
Ouais.
Mais quand on s'est rencontrés, Denis m'a dit « Je vais faire un écrivain de toi ». D'ailleurs, il y a un personnage dans le roman qui veut faire un écrivain de sa fille et de son fils. Puis elle veut que tout le monde écrive. Et moi, je lui ai répondu, ben non, moi, j'écris avec des images, j'écris avec des musiques, j'écris avec des spectacles, mais avec des textes d'auteurs. J'ai fait plusieurs mises en scène au Théâtre du Nouveau Monde avec Olivier Kemet. J'ai fait Cité Mémoire, le grand parcours de projection avec Michel-Marc Bouchard. Alors, je me suis aperçu, en fait, que même si je n'avais jamais publié, j'ai beaucoup travaillé avec l'écriture. Tous mes spectacles, toutes mes conceptions ont d'abord été écrites en mots avant de se retrouver en images. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec des auteurs comme un peu script éditeur pour abréger, pour remanier, la structure du récit et approfondir les personnages. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire avec Denis, mais là, à un moment donné, je me suis pris au jeu. En fait, je me suis inspiré des plus beaux extraits, ce que je trouvais vraiment là où Denis se surpassait au niveau littéraire, et je me suis fait un peu caméléon. J'ai pris cette langue, la plus belle langue de Denis, et je l'ai appliquée à beaucoup, beaucoup d'autres endroits dans le roman.
Mais là, quand on travaille sur ensemble, des fois, il y a des petites
flammes. C'est un exercice de patience.
Oui, c'est pire qu'un Mabikea, ça, ou c'est plus facile qu'un Mabikea?
Non, mais... Ça a très bien été.
Oui, mais de fait, on y est allé avec humilité aussi.
Ouais.
Donc, c'est comme, amuse-toi, moi, je me suis amusé, et c'est aussi le plaisir de découvrir ses propositions.
Oui.
Puis de les accepter, puis de dire « OK, on corrige ça, on structure ça un peu, puis on a eu du fun à faire ça, là. »
Tu me permets, je vais te dire que je trouvais que cette version de l'histoire est beaucoup plus complète et beaucoup plus accomplie. Puis c'est pas une critique de l'autre texte.
Non,
mais
je suis d'accord.
Ouais.
J'approuve.
Mais c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. En fait, Denis et moi, on est un couple très fusionnel. Et puis, toujours dans la bonne entente, moi, j'ai une compagnie depuis 40 ans qui s'appelle 4DR.
Oui.
Denis est devenu directeur des opérations chez 4DR. Et on a écrit aussi le texte d'un projet que j'ai conçu et réalisé au Parc Omega, qui a ouvert en juin dernier, qui est toujours là d'ailleurs pour plusieurs années, qui s'appelle Oniro. Et c'est un parcours dans la nuit. Tu te promènes pendant un kilomètre dans la forêt, puis tu vois des animaux en hologramme, des animaux géants dans la forêt. Et le texte est dit par 12 acteurs. Qui sont, leur voix est répartie sur à peu près 300 arbres. Alors, le texte est partout et nous est raconté par les arbres. Alors, ça, c'est un premier texte qu'on a écrit à quatre mains,
qui
a ouvert en juin dernier.
Mm-hmm.
Alors, de travailler la somme de nous, c'est comme un peu plus substantiel. Je dois avouer qu'un roman, c'est plus de travail que je pensais.
Ah, oui.
Moi, je suis un grand lecteur.
Ouais.
J'ai lu beaucoup. quand ça coule de source, on voit pas le travail derrière. Mais le roman se passe en 1998. Plein de choses qu'on n'avait pas en 98.
Ben oui, il n'y avait pas de téléphone. Les gens s'écrivaient des lettres.
Ben, en fait, les plus vieux s'écrivent des lettres et les plus jeunes ont des petits téléphones à clapet, là, des anciens téléphones, puis des textos rudimentaires.
Oui, oui.
Alors, on est plus de l'ordre du Minitel. Alors, c'est intéressant, le roman parle un petit peu de ça, du passage de l'épistolaire, le moment où on communiquait par lettres, où on prenait du temps pour écrire les lettres prenaient du temps pour nous arriver, puis il y avait un processus lent, et dans le roman, les plus jeunes écrivent des textos très, très rapides.
Et rudimentaires, oui.
Et rudimentaires. Et on voit cette espèce de passage qui a fait que la lenteur n'est plus trop de ce monde.
Je voudrais quand même revenir sur le roman comme tel. La géographie est très importante, hein? La Gaspésie, Vancouver, Escourt. Pourquoi?
Ben, je me suis dit, ce village-là, ce coin-là est intéressant parce que il y a le Nouveau-Brunswick qui est pas loin, il y a le Maine, donc c'est à l'image, par exemple, du personnage de Blanche qui est en France mais qui est québécoise par ses racines. Donc, il y a des personnages qui sont à la frontière de deux, trois réalités. Il y a des personnages d'origine polonaise aussi,
oui,
qui sont au Québec, mais qui, par leurs souvenirs, ça les ramène forcément vers l'Europe. Donc, Escourt, je le trouvais intéressant, ce village-là, justement parce que c'est à la fois une chose et à la fois autre chose. Donc,
en fait, la maison d'un des personnages est carrément sur la ligne.
Sur la ligne.
L'arrière de la maison est aux États-Unis, oui, devant. C'est un roman.
C'est intéressant
sur...
de nos jours aussi.
Oui,
hein?
qui parle de distance. Oui.
Mais qui parle de secrets de famille.
Oui, et aussi.
Ça, et j'avoue que vous en avez ajouté une coupe d'épaisseur depuis le premier roman, parce qu'il y en a encore un autre, celui-là. Et c'est pour ça que j'avais écrit, je peux le dire, j'avais écrit à Denis un courriel, je dis, écoute, il y a des choses que je veux voir parler, parce qu'il me semble qu'il y a des affaires qui ont changé. Oui. Il y en a, des secrets de famille, sans les dévoiler, mais il y en a.
Oui, et il y a autant les vivants qui portent des secrets que des gens disparus, puis aussi les liens qu'on a entre les uns les autres. Souvent, je dis qu'on vit en constellation, dans la mesure qu'une personne a des membres de sa famille, puis des amis, tout ça, puis quand tu regardes ça, ça fait des belles ramifications. Donc, on retrouve ça au niveau du roman. Et puis, pour ce qui est de la couverture, on a pris la photo, Michel a pris la photo sur le traversier entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup.
Wow!
Oui.
Les amis...
C'est vraiment une œuvre comme un bébé.
Rapidement, vous partez en tournée pour faire la promotion
du livre? Oui, on s'en va. On a fait le lancement à la librairie du Square d'Outremont la semaine dernière, et là, on s'en va à Québec le 7 avril à retenir, Maison de la littérature, le lancement à Québec, et par la suite, le Salon du livre de Québec toute la semaine.
Et sans oublier un livre audio.
Oui, un livre audio lu par Bénédicte Descaries qui s'en vient.
Ben, on aime ça, les livres audio à Canalem. On est beaucoup là-dedans. Et puis, rapidement, Michel, toi, il t'arrive quoi, là?
Ah, il m'arrive plein de projets. On ouvre une galerie virtuelle avec des œuvres de plein d'artistes qu'on va pouvoir voir en réalité virtuelle, entre autres, ou sur... Et puis, j'ai toujours mon installation numérique vulnérable qui est en tournée dans les écoles et partout.
Merci beaucoup, Michel Lemieux et Denis Morin. Je rappelle le livre qui s'appelle « La somme de nous ». C'est publié chez les éditions TNT. C'est disponible en librairie. Wow, c'est toute une émission aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'action dans le studio et un peu partout. On a parlé de beaucoup de choses et c'est toujours un plaisir d'animer cette émission. Les lundis matins, en remplacement d'Hélène Denis, qui, pour un petit bout de temps, me laisse le privilège, l'immense privilège d'animer cette émission les lundis matins et de recevoir donc des invités toujours aussi palpitants qui ont des choses à dire. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je remercie Mathieu Tessier à la régie. Je remercie aussi toute l'équipe de Canal M et aussi Hélène Denis qui m'aide à la recherche. Moi, je vous donne rendez-vous à 17h aujourd'hui pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Il sera entre autres question d'un autre livre qui s'appelle Histoire LGBT, Histoire avec un S, avec Jean-Charles Panton. À plus tard.